Semaine Sainte 2023, en direct de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Bonneval. Office de la Passion.
Bienvenue à toutes et à tous, auditeurs de Radio Fidélité Mayenne, de Radio La Purdie à Bayonne, de Radio Ecclésia dans le diocèse de Nîmes et de Radio Présence dans son réseau Midi-Pyrénées. Nous sommes effectivement à l'abbaye de Bonneval et nous allons vivre ensemble la célébration de la Passion. Une célébration qui nous permet d'atteindre, j'allais dire, le moment le plus aigu de la Passion de Jésus. Elle se déroulera en quatre temps, comme nous le verrons.
Tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes, aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de la Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
Le premier temps de cette célébration est une longue liturgie de la parole. Elle commence par, effectivement, la fameuse prophétie d'Isaïe du serviteur souffrant. Un texte bouleversant quand on pense qu'il a été rédigé plus de 5 siècles avant Jésus.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera. Il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été concernée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par nos blessures, par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Après ce passage d'Isaïe, nous allons prier avec le psaume 30. Et toi, Seigneur, en toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours.
Tu es mon Dieu, mes jours sont dans hostile qui s'acharne. Serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur.
La seconde lecture que nous entendrons est extraite de la lettre aux Hébreux. Nous allons retrouver ce qui est constant dans l'épître aux Hébreux, ce profil de Jésus, grand prêtre, qui a finalement réalisé en lui-même cette réconciliation avec Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Intervient maintenant le chant du graduel, Christus factus est. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. c'est maintenant la grande lecture du Vendredi Saint, la lecture de la Passion en intégrale, qui est extraite de l'Évangile selon Saint Jean. Il y aura bien sûr plusieurs lecteurs.
La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit
« Qui cherchez-vous ?»
Ils lui répondirent
« Jésus le Nazaréen. »
Il leur dit
« C'est moi, je le suis. »
Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau
« Qui cherchez-vous ?»
Ils dirent
« Jésus le Nazaréen ».
Jésus répondit
« Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. »
Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre, avec une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre,
« Remets ton épée au four. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?»
Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre,
« N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?»
Il répondit,
« Non, je ne le suis pas. »
Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit,
« Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. »
À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant
« C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?»
Jésus lui répliqua
« Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?»
Anne l'envoya, toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit
« N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?
Pierre le nia et dit :
Non, je ne le suis pas.
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista :
Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?
Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda :
Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?
Ils lui répondirent :
S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme.
Pilate leur dit :
Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi.
Les Juifs lui dirent :
Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort.
Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit :
Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus lui demanda :
Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?
Pilate répondit :
Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara :
Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici.
Pilate lui dit :
Alors tu es roi.
Jésus répondit :
C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix.
Pilate lui dit :
Qu'est-ce que la vérité ?
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara :
Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?
Alors ils répliquèrent en criant :
Pas lui, mais Barabbas.
Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient :
Salut à toi, roi des Juifs.
Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit :
Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara :
Voici l'homme.
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier :
Crucifie-le, crucifie-le.
Pilate leur dit :
Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Ils lui dirent :
Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu.
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus :
D'où es-tu ?
Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors :
Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?
Jésus répondit :
Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand.
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier :
Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur.
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors et il le fit asseoir sur une estrade au lieu d'île d'Allage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs :
Voici votre roi.
Alors ils crièrent :
À mort, crucifie-le.
Pilate leur dit :
Vais-je crucifier votre roi ?
Les grands prêtres répondirent :
Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur.
Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fut placé sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate :
N'écris pas « roi des Juifs », mais « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ».
Pilate répondit :
« Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ».
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux :
Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura.
Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère :
« Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit :
« J'ai soif. »
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :
« Tout est accompli. »
Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
C'est maintenant le Père Serge qui va prononcer une courte homélie après ce long récit de la Passion.
Le silence de mort dans lequel le Christ Jésus est plongé est déjà le lieu même d'une victoire annoncée. C'est le silence qui précède la sonnerie des trompettes dans le livre de l'Apocalypse. C'est le silence précédant l'œuvre de la création de Dieu dans le livre de la Genèse. C'est le silence d'où jaillissent des paroles de sagesse et d'encouragement, telles celles de Jésus pour la femme adultère. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Il y a des silences qui annoncent déjà la vie. Il y a des silences chargés d'espérance. Il y a des silences qui sont des preuves d'amour. Tel est le silence du Christ sur la croix. Il n'est pas un silence de tristesse et de faim. Il est un silence de confiance en Dieu, son Père, qui conduit ceux qui lui obéissent jusqu'à la victoire définitive, jusqu'à la vie éternelle. Le Christ, en ce vendredi, nous invite à ce silence, à nous tenir en silence aux côtés de ceux qui souffrent, à garder le silence devant l'absurdité des hommes, à demeurer dans le silence quand il n'y a rien à dire, à goûter le silence qui est un lieu de paix. Le monde a tant besoin de silence pour renaître à nouveau. Nos vies ont tant besoin de silence, car c'est là, avec le Christ, que se reçoit une espérance plus forte que tout, plus forte que la mort. C'est là que s'apprend avec le Christ la patiente confiance qui nous permet de supporter l'épreuve. C'est là que s'invente avec le Christ un amour indéfectible avec nos frères et sœurs en humanité. Dans le silence, nous regardons celui qu'ils ont transpercé pour recevoir l'esprit de vie qu'il nous donne déjà en ce jour et nous tenir alors au pied des croix multiples des hommes et des femmes sans exception.
Nous allons maintenant entrer dans le second moment important de cette célébration. Après la liturgie de la parole, c'est la grande prière universelle. Une prière qui remonte aux origines de l'Église quasiment, en tout cas très loin. Et vous verrez que pour chaque intention, le diacre va donner l'intention de prière et ensuite le prêtre prononcera une prière qui est liée à cette intention. Cette grande prière universelle, c'est donc un diacre qui est présent ici à l'abbaye, qui vient faire une retraite en quelque sorte, Philippe, qui est du diocèse du Mans, qui donnera les intentions de prière.
À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière.
Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible, pour que nous rendions grâce à notre Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église, pour gouverner le peuple de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dans la sagesse organise toutes choses, dont la sagesse organise toutes choses. Écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour notre évêque François, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants.
Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour les catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre l'intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés. Par le bain de la naissance nouvelle, qu'il soit incorporé à notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ notre Seigneur.
Amen. Amen.
Prions pour l'unité des chrétiens qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa vérité pour la paix et la liberté de tous.
Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui cherchent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent. Qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants.
Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Après cette grande prière universelle, va se dérouler la vénération de la croix. Alors, nous assistons à une tradition, c'est le fait que les sœurs vont se déchausser avant de venir vénérer la croix. La croix arrive maintenant, elle est portée conjointement par le prêtre et le diacre. Il la dispose sur l'autel et elle est bien sûr revêtue d'un vêtement rouge. On la découvre, on enlève ce vêtement et le prêtre va chanter l'acclamation. Voici le bois de la croix.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
Venez.
et vont rester en silence pendant quelques instants.
Peut-être que chez vous, vous avez un crucifix aussi. Si vous écoutez cet office, vous pourrez y participer vous aussi. Peut-être décrocher ce crucifix, le rapprocher de vous, et vous aussi le vénérer, comme ici dans cette église, les sœurs vont être amenées à le vénérer une par une. Mais avant cela, les sœurs vont chanter ce qu'on appelle les impropères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces impropères, Étienne?
C'est une sorte de dialogue entre un soliste qui représente en quelque sorte la voix de Dieu et puis les autres qui vont répondre à ces questions. Ainsi, Dieu dit « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé ?» Et tout le monde répond « Seigneur, prends pitié de nous. » après le chant des impropères, va avoir lieu la procession de la croix. Le prêtre est en train de porter la croix, il traverse le chœur, descend les marches et va poser la croix sur les marches qui mènent au chœur. C'est là que chaque monial va être invité à venir se prosterner au pied de la croix en baisant les pieds du crucifix.
Les sœurs se sont l'une après l'autre agenouillées et puis couchées littéralement sur le sol de l'église pour embrasser les pieds de la croix dans un geste d'un total abandon au mystère de cette mort sur la croix. Et puis ensuite viennent les sœurs qui ont plus de difficultés et pour celles-ci, le prêtre porte la croix. Et puis il finit par l'apporter aux sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. Et enfin, il va au fond de l'église pour que l'assemblée qui est derrière puisse aussi la vénérer.
Le Fils de l'homme.
La vénération de la croix étant terminée, la croix va rester debout, appuyée contre l'autel, pendant que l'on chante Super Omnia. Bien sûr, dans cette liturgie, le Vendredi Saint, il n'y a pas de célébration eucharistique. Et pourtant, il y a le moment de la communion que nous allons vivre maintenant. On va donc préparer l'autel, le couvrir d'une nappe, du corporal, du missel, et puis le célébrant va aller chercher le Saint-Sacrement qui a été placé au reposoir depuis hier soir. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi cette liturgie la liturgie des pré-sanctifiés. C'est-à-dire que on va communier, mais pas à des hosties consacrées à l'instant même, mais à celles qui ont été consacrées la veille au cours de l'Eucharistie d'hier.
Donc pré-sanctifiés comme sanctifiés avant, c'est ça ?
Voilà. C'est la seule fois dans toute l'année liturgique où ça se produit.
Oui.
Et ensuite, la réserve eucharistique, puisqu'il va rester forcément quelques hosties, repartira vers le reposoir. Demain, le Saint-Sacrement ne sera pas visible, on peut dire, puisque Jésus est dans le tombeau.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Contrairement à ce qui se passe pendant la liturgie eucharistique, il n'y a pas de baiser de paix, pas d'agneau de Dieu non plus. Les sœurs vont maintenant s'avancer une à une pour communier.
Et la mère abbesse sort de l'église avec la custode pour aller donner la communion aux sœurs qui sont à l'infirmerie.
Vous pouvez bien sûr, là où vous êtes en ce moment, si vous n'avez pas accès à cette communion, eh bien, vous pouvez vous joindre à cette démarche, communier au Christ, se rapprocher de lui, être uni à lui, particulièrement au moment où nous évoquons ces heures si difficiles qu'il a pu subir.
Aussi vous proposer, pour vous qui êtes peut-être loin d'une église et qui ne l'avez pas désiré, ce qu'on appelle la prière de communion spirituelle. Donc je propose simplement de vous lire celle du Saint Padre Pio. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous.
Thank you.
La communion maintenant terminée, les hosties qui restent donc dans le ciboire vont de nouveau être emmenées au reposoir où elles ont passé toute cette nuit. Mais sur cette liturgie du Vendredi Saint est très, comment dire, pesante n'est pas le vrai mot, parce qu'il y a une pureté dans les chants. Mais il y a quand même une gravité, voilà. Nous sommes en train de célébrer le moment le plus aigu de cette passion de Jésus. Et puis, j'allais dire que tout est accompli, comme Jésus l'a dit sur la croix. La liturgie va s'achever par une prière et une bénédiction, et tous ensuite vont se retirer en silence. On pourrait croire, et c'est peut-être que les apôtres ont cru sur le moment, que tout était fini. Mais Jésus n'a pas dit « tout est fini » sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et nous savons bien sûr que tout cela va se poursuivre, au-delà de la résurrection. Puis ensuite, avec la venue en force, en puissance de l'Esprit, sur les apôtres à la Pentecôte.
Il ne reste plus sur l'autel qu'un cierge allumé.
C'est la petite lumière de l'espérance qui demeure malgré tout. Même au fin fond du gouffre, même dans la vallée des ténèbres, comme le dit le psaume, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Thank you.
Voilà, la célébration est achevée. Les sœurs vont sortir en silence, à leur rythme. Certaines vont peut-être rester un moment dans les stalles. Le prêtre et le diacre vénèrent l'autel et vont également se retirer. Mais la petite bougie va rester allumée sur l'autel.
Voilà pour cet office de la Passion. Nous vous donnons rendez-vous à 19h. On se retrouvera autour de cette table pour vous faire un petit récit de cette journée. Et puis ensuite, l'office de Compli à 19h35. Et là maintenant, on vous propose successivement deux documents assez exceptionnels avec un jeune compositeur qui s'appelle Marc Garetto, qui a longuement rencontré Hélène Souvignon. Hélène qui est une journaliste de Radio Ecclesia, là où Étienne travaille, et qui va d'abord une interview portrait de Marc Garetto, et ensuite il va nous guider dans l'écoute d'une œuvre qu'il a composée très récemment, un Stabat Mater, évidemment parfaitement approprié pour le temps que nous vivons, pour nous donner l'occasion de prier nous aussi, en comprenant cette œuvre, de prier avec Marie qui est au pied de la croix. Donc successivement, cette interview de Marc Garetto, et puis ensuite l'écoute commentée de ce Stabat Mater. À plus tard.